Je suis maintenant nous confondre.
J'ai le plaisir de retrouver les frères Dardenne, Luc et Jean-Pierre. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Toujours en duo, en tandem, c'est merveilleux. D'autant plus que dans l'hôtel Tiffany, vous vous trouvez à Genève actuellement, on vous confond. Donc vraiment, le mimétisme est parfait. Alors, vous êtes présents pour la rétrospective qu'organisent les cinémas du Grutli, juste à côté de votre filmographie. On va revenir sur votre carrière, parce qu'on vous a découvert sur la scène internationale avec La Promesse. C'était à Cannes, la quinzaine des réalisateurs. Mais vous aviez déjà fait plusieurs films avant. C'était le troisième, si je ne me trompe.
Oui, c'était le troisième. On avait fait, en 86, on avait fait Falch, qui est l'adaptation d'une pièce de théâtre de René Kaliski, écrivain belge d'origine polonaise, juif polonaise, mais qui vivait en Belgique depuis quasi sa naissance, ou même il était né en Belgique, je ne sais plus, j'oublie. Et après cela, nous avons fait un autre film qui s'appelle Je pense à vous. En 91.
Et La Promesse ?
Alors La Promesse, c'est le premier film vraiment où on peut dire, enfin nous, en tous les cas, on le considère comme ça, c'est notre film. C'est-à-dire que Falch, on aime beaucoup le film, mais c'est une adaptation d'une pièce de théâtre avec des dialogues dans lesquels bon, on a dû couper dans la pièce parce qu'elle était trop longue et Kaliski est mort au moment où il l'achevait, donc il ne l'a pas terminé. Donc on pouvait se permettre d'un peu couper. Mais c'est, si vous voulez, un peu comme... On vient du documentaire, et disons que Falch, le texte est un petit peu la matière préexistante au film, si vous voulez. On n'a pas écrit le scénario, on n'a pas inventé une histoire, on s'est servi de la pièce de théâtre un peu comme un documentariste se sert d'une réalité qu'il filme et qu'il restructure. Et alors, Je pense à vous, ça c'est notre premier film de fiction, film qui était mauvais et qu'on n'a pas aimé.
Tous les deux.
Voilà, qu'on a trouvé mauvais tous les deux, bien qu'on l'ait fait aussi tous les deux, et qu'il se soit fait un peu tout seul, je dirais, plutôt, et qu'on n'a jamais su vraiment ce qu'on faisait. Accepter le scénario avec Jean Gruau, qui était une très belle aventure, on a appris beaucoup de choses avec donc cet homme, mais sinon le reste, c'était pas une grande aventure pour nous. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, maintenant, on va faire ce que nous, on pense qu'on peut faire et qu'on sait faire, voilà. Et on a fait La Promesse, c'est-à-dire qu'en quelques mots, on a supprimé le plus de médiation possible entre les acteurs et la caméra, donc, que ce soit au niveau de l'éclairage, au niveau des matériels de travelling, grues, etc., que ce soit au niveau des marques, que ce soit au niveau des gens qui entourent les acteurs, le moins de choses possible. Voilà, de plus de rapports directs avec nous, caméra à l'épaule, le plus possible... pas du tout pour bouger, pour trembler, hein, mais pour ne pas avoir d'intermédiaire. Voilà, ne pas avoir une machinerie qui nous oblige à faire tel mouvement alors qu'on aimerait plutôt se rapprocher d'un coup puis s'éloigner. Bon, voilà, qu'on soit le plus libre possible. Et voilà, donc, et travailler avec des amis et des acteurs inconnus. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Et dans tourner dans, si vous voulez, j'oublie le terme.
La continuité.
La continuité du scénario. Au premier jour, première scène, premier plan de la première scène. Plus ou moins, parce que parfois on peut pas. Hein? Mais enfin, on revient dans... Donc ça coûte plus cher, mais on s'en fout. Parce que nous, on sait que ça bouge. On évolue dans notre tête, les comédiens évoluent. Donc le scénario, les personnages. Donc on dit, attends, c'est bien qu'on ait attendu 2 semaines avant de revenir ici.
Une maturation.
Voilà, le film a bougé. Peut-être que la première scène en a fait ça. Le plan, on va faire ça. Donc, on peut aussi refaire des choses qu'on a faites. Un peu comme un écrivain qui se permet de revenir. Voilà, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Un peu comme si le tournage était encore un peu une répétition.
Voilà, remettre sur... Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose au propos de votre frère ?
Non, j'ai dit continuité.
Oui, vous êtes complémentaires. Vous êtes une complicité troublante qui, à chaque interview, vraiment me stupéfait. Et je pense que ça s'est encore consolidé avec les années de travail ensemble. Pour revenir à ce que vous avez fait avant, vous aviez fait des sortes de portraits, n'est-ce pas ? Il est en train de digérer son excellent repas. Il ne veut pas prendre la parole.
Non, si, si. Des documentaires, sous forme de documentaires. Hein. Et ces documentaires, effectivement, étaient, on peut dire ça, mais des portraits. Des portraits en mouvement, si on veut. Hein. Mais c'était des portraits... d'abord de résistants anti-nazis dans notre région, dans la région de Liège, Serein, le long de la Meuse, dans le sud-est de la Belgique, pas loin de la frontière allemande d'ailleurs. On est à 100 km de Cologne. Puis on a fait deux ou trois films, j'ai oublié, documentaires sur l'histoire du mouvement ouvrier dans notre région, mais chaque fois centré avec, autour d'individus. Mmh. Et le portrait d'un écrivain de théâtre. Puis on a fait aussi un documentaire autour des radios libres. Ça, c'était un tout petit peu différent. Mais voilà, donc nous, ce qui nous a toujours intéressé, en fait, et on peut dire que nos films...
Pologne.
Et la Pologne aussi, le documentaire sur les cinq immigrations polonaises en Belgique. En Belgique. On a fait ça en réaction à la prise de pouvoir de Jaruzelski. Mm-hmm. Hein. Et on peut dire aussi que nos films de fiction, d'une certaine manière, sont aussi des portraits. Mm-hmm. Portraits de Rosetta, vous voyez. Et que c'est toujours ça qu'on a fait, en fait, des portraits.
Mais, par rapport aux thématiques, c'est souvent un milieu... c'est un univers social avec des ouvriers, avec des petites gens. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une intention dans vos portraits et dans vos documentaires d'être en relation, en résonance avec ce qui se passait avec Zoli Larnoicht, Lechwałęsa,
oui,
Lechwałęsa, comme on dit
Oui, tout à fait. Quand on a fait le documentaire sur la Pologne, c'était ça. Hein. C'était lié à la résistance de Solidarnosc et l'arrivée de Jaruzelski envoyé par les Russes. Et... C'est très complexe ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que finalement, Solidarnosc a pu gagner. Mais il y a eu des morts aussi. Il y en a eu 16. À Gdansk, c'est ça qui a lancé vraiment le mouvement et qui a fait que là, les communistes ont été battus. Mais c'est vrai que c'était en rapport avec ça. C'était tout, la question, c'est ça. Voilà. Oui, c'était en rapport avec le mouvement ouvrier, évidemment, parce que Gdansk, c'était un mouvement ouvrier. On peut dire que je veux dire, il y avait quand même en Pologne, parce que plus tard on a produit un autre film sur
le
mouvement du corps,
donc qui ont précédé qui sont la préfiguration de Solidarność. Mm-hmm. Quand Solidarność naît, le corps, qui est un mouvement plutôt un mélange intellectuel ouvrier se dissout quand le mouvement syndical prend corps, si je puis dire, le corps se dissout. Je pense qu'on n'a jamais vu ça dans l'histoire des mouvements politiques, un parti ou un mouvement qui s'autodissout parce qu'il a donné naissance à autre chose et qui sortir. C'est exceptionnel. Ils ont fait des grandes choses à ce moment-là, les anciens pays.
Et réellement, ils n'étaient pas beaucoup. Ils étaient peu. Et ils écrivaient des espèces de gazettes comme ça, de deux, trois feuilles. Dans le film, on les voit d'ailleurs, tous ces documents.
Ah ouais, c'est très beau.
Voilà, une résistance vraiment à l'oppresseur, à l'oppression communiste, mais sans non plus créer la panique, la peur chez les gens et tout, parce que quand le pouvoir s'en va, les gens ont peur. Quel que soit le pouvoir qui disparaît, les gens ont peur et tout. Donc vraiment, travail très pédagogique en même temps. Vraiment formidable.
Et alors, pour je ne sais pas, conclure, ça c'est vous qui décidez de conclure sur votre question, mais... Pour apporter un petit complément d'information sur les documentaires, dont on disait aussi un documentaire sur les radios libres, et à cette occasion, on a fait un documentaire sur ces radios libres qui naissaient partout en Europe, qu'est-ce que ça signifiait, qu'est-ce que ça pouvait signifier. La fin de notre documentaire se termine dans le brouhaha.
Enfin, victoire du bruit.
Mais il y avait quand même pas que ça, et nous sommes venus à petit temps en Suisse, et nous avons filmé entre autres à Zurich. Un petit peu après le jeune qui s'était immolé là devant l'opéra, enfin tout le mouvement qu'il y avait à ce moment-là, on était là, on est venu après, et nous avions suivi, pas très longtemps, mais enfin celui qu'on avait suivi, une radio qui s'appelait Schwarzikat à Zurich. Voilà.
Les radios libres qui font des émules maintenant sur Internet, parce que cette qualité d'expression avec une liberté politique, il n'y avait pas d'autocensure, fait vraiment défaut aujourd'hui. C'est très formaté. C'est souvent à la solde de certains mouvements politiques. En tout cas, on sait que les gens s'autocensurent. Et les radios libres, en fait, on aimerait que ça se retrouve, en tout cas, sur les ondes, peut-être Internet. Vous l'avez remarqué aussi en Belgique ?
Je suis incapable de vous répondre.
Vous non plus ?
Je pense, mais vous savez sans doute ça mieux que nous, mais il me semble que ça va un peu dans tous les sens. Mmh. Mais il est vrai que quand on dit ça va dans tous les sens, ça veut dire que dans tous les sens, c'est aussi de très bonnes choses. Et puis il y a aussi des trucs de propagande et tout ça.
Oui, pour une révolution comme début de révolution, place Tahrir en Égypte, bon, là effectivement, ça a joué un vrai rôle.
Et ça joue encore un rôle parce qu'il y a
en Chine aussi,
il y a un film
en Pologne aussi,
en Iran.
En Iran aussi. Ouais, ben oui, bien sûr, mais je veux dire, chez nous, en Belgique, dire qu'il y a une libéralisation, une libération de la parole, une parole plus critique sur Internet, je dois dire que ce qui se passe dans les événements, pour l'instant, c'est plutôt le contraire. Ouais. Hein, c'est plutôt une parole plutôt de peur et de haine, hein, vis-à-vis notamment de l'immigration.
Qui malheureusement se retrouve dans beaucoup de pays en Europe. Vous parlez de la Pologne, mais ça, aussi la Hongrie.
Oui, oui, mais je veux dire, c'est pas lié à Internet, mais c'est lié aux événements. Internet, c'est bizarre. C'est un reflet assez direct, comme ça, sans médiation quasi de. Sinon, filtre. La médiation des stéréotypes, quoi, pur. Où chacun est là dans sa peur, chez lui, devant sa machine, et débite ses trucs, et parfois signe, parfois sous un faux nom, parfois ne signe pas.
Oui, mais c'est vrai, mais en même temps, il y a la naissance de choses. Enfin, moi, je ne connais pas bien, mais si on voit seulement dans notre domaine, si je puis dire, dans le cinéma, ce qui se dit autour à propos du cinéma, nous, on voit que de plus en plus, on rencontre aussi des journalistes, qu'ils soient professionnels ou pas, j'en sais rien, mais ils sont devenus, parce qu'ils font des interviews, des rencontres, ils écrivent des critiques, qui travaillent sur des blogs ou qui ont leur propre affaire et qui sont devenus un peu aussi des relais... De films, et qu'une parole libre, mais libre ne veut pas dire libre et intelligente, et qui ont des choses à dire, et ça c'est bien ça. Et c'est voilà, dans bien. Ce domaine-là, oui, quand même, il y a des choses qui ont bougé, non? Enfin, vous savez ça aussi bien que
tout à fait, tout à fait. Alors je reviens à vos débuts, parce que vous êtes présent là, comme je disais, pour la présentation de votre filmographie intégrale au Grütli. Au début, il y en a un des deux, il me semble que c'est Jean-Pierre, qui s'est formé comme comédien. Donc, est-ce que ça a influencé votre façon de travailler avec les comédiens? Parce que du moment qu'on connaît les doubles casquettes, est-ce qu'on a une façon d'approcher les comédiens différemment?
Le seul truc, je me suis aperçu d'un truc, c'est que quand ça me ramène à mon expérience, quand je vois quelqu'un devant nous qui ne s'en sort pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que moi, ça n'allait pas. Et je me dis, le pauvre mec ou la pauvre fille, putain. On va essayer que... C'est le seul... Sinon, non, je ne pense pas. Je n'ai pas suffisamment de distance par rapport à moi-même pour dire ça, mais je sais bien que consciemment, en tout cas, ça nous est arrivé à 2-3 reprises. Quand on avait un comédien, je disais, Luc, tu vois, ça me rappelle vraiment quand je devais travailler à l'école et que je n'arrivais pas à faire les trucs et tout ça. Et notre gars, là, où il est dans la même situation. J'ai l'impression qu'il est dans la même situation que moi. Il va falloir faire quelque chose pour l'aider, pour qu'il en sorte.
Donc, oui, il y a une empathie.
Oui, une empathie. Et Luc me dit, je te laisse je te laisse aller, ça te rappellera ton passé.
Parce qu'il y a toujours des êtres bienveillants, même quand on commence, il y a toujours des gens qui sont là pour... on pense à la fameuse scène entre Jeanne Moreau et Vanessa Paradis, par exemple, où elle sentait qu'elle s'enlisait et elle lui a tendu le bras. Donc,
on est tout seul devant la caméra, oui. Voilà. Si on est plusieurs à jouer, c'est bien. Ouais. Oui, bien sûr, non, on n'a jamais... jamais laissé un comédien comme ça en panne. On est bienveillant, si je puis dire, mais aussi strict parfois, parce que bon.
Vous avez des attentes.
Oui, bien sûr. Mmh. Il faut quand même qu'il arrive ou qu'elle arrive à faire ce qu'on demande. Donc ça. Mais on répète aussi, donc on voit déjà les problèmes là. Et donc quand on choisit un acteur au casting, bon voilà, on n'est jamais revenu en arrière, on n'a jamais changé d'acteur. Donc voilà, on assume ce qu'on a choisi au casting et puis en avant, on travaille. Et si ça ne va pas, ben, on travaille en plus, et le double, et le triple, et on fait des cours de gym, et on fait des cours de musculation, et voilà, parce qu'il faut savoir tomber, courir, se relever. Vous voyez, nos films sont physiques. Quand on voit Rosetta, la pouffie, après, elle était bleue, hein, les jambes, tout, enfin, c'était terrible. Donc, nos films sont très physiques, donc, voilà, on travaille avec très peu de cascadeurs, sauf quand vraiment il y a danger. Donc, il y a un vrai travail, et on a toujours rencontré des acteurs qui aiment travailler, qui cherchent.
S'impliquer aussi physiquement.
Ah oui, physiquement et mentalement, évidemment.
Mais, émotionnellement.
Oui, mais je veux dire, pas qu'ils disent, bon, là, je crois que ça suffit, j'ai assez donné, non. On n'a jamais eu ce genre d'acteur.
Vous mentionnez Rosetta, c'est la Palme d'Or en 99, la consécration au Festival de Cannes. Rosetta, c'est un choix aussi qui est porté par une personne, Émilie Dequesne. Vous pouvez nous parler comment vous avez compris que c'était elle?
Portrait d'Émilie.
Compris, je dirais plutôt qu'à un moment donné, il y a une intuition, quoi. D'abord, on voit beaucoup de monde. Bon, nous, on a une intuition du personnage. Enfin, quand même, il y a un scénario, tout ça, mais il n'y a pas de description précise. Il n'est pas mis, elle est comme ci, elle est comme ça, elle a la peau, elle a la peau qui change de couleur en fonction de ses émotions. Elle est agricole. On n'a jamais dit ça. Mais et puis on a testé, et puis on en a retenu deux. Il y en a une qui était un peu plus aérienne, et puis il y avait Émilie. Et c'est à travers les répétitions qu'Émilie nous a convaincus que. On a fait une répétition avec elle et elle s'est accrochée à son sac de farine. C'était pas un sac de farine, c'était une table, elle s'accrochait à la table et on s'est dit, elle s'accroche au rôle, elle le veut vraiment. Et on a senti une énergie, une force dans cette fille qui nous semblait être celle que Rosetta devait avoir. Voilà, on a fait. Mm. Et puis elle avait la voix aussi. Ouais. Sa voix nous a aussi beaucoup plu.
Elle a pu pleurer en tombant avec les chaises.
Oui.
Au lieu de la bonbonne, c'était des chaises. Elle est tombée, elle a craqué les chaises.
Elle nous a convaincus.
Parce qu'il fallait justement une actrice capable de s'accrocher, puisque Rosetta est prête à tout, même à tuer, ce qui dérangeait certains spectateurs d'ailleurs, pour décrocher un travail.
Oui, elle est prête à tout. Et voilà, mais bon, elle savait jouer quelqu'un qui est prête à tout. C'est pas parce qu'elle était comme ça dans la vie, ça c'est autre chose, mais elle était capable vraiment de s'accrocher, de vouloir. Il y a une énergie dans son regard, dans ses mâchoires. Et puis sa voix est très belle.
Et corrigez-moi si je me trompe, il me semble qu'elle avait fait surtout du théâtre et peu de cinéma, non ?
C'est faux. Des acteurs. Hein. Mmh. Si, elle avait fait des cours d'académie et elle avait joué, nous a-t-elle dit. Moi, je ne l'ai pas vu, un peu de Shakespeare, je pense. Hein. Un peu de Racine, je crois. Et puis, son rêve était Madame Sangène. C'était faire Madame Sangène, mais elle avait un prof de diction et théâtre à l'académie, les écoles du mercredi après-midi ou du samedi. Mmh. Où elle allait, donc elle aimait jouer, quoi. Elle avait ça dans le sang.
Et elle nous avait écrit une lettre formidable parce qu'on demandait aux jeunes comédiennes, enfin aux jeunes filles qui voulaient jouer le rôle de Rosetta, d'écrire.
Les deux motivations.
Légère, quoi. Ouais. Et puis même si on ne le demandait pas, ça se fait automatiquement, ça m'intéressait tout. Et elle a écrit un truc formidable. Je veux.
Devenir une grande, grandir, devenir une grande parmi les grandes.
Oui, voilà.
Voilà, tout était dit. Alors, il y a un protagoniste qui est primordial dans tous vos films et qui parfois est même abrupt pour le spectateur. C'est le décor naturel qui peut être boueux, qui peut être rude, qui peut être pluvieux. Ça a une grande importance chez vous, le décor naturel, justement, et l'importance des paysages, des lieux.
Oui.
Non.
Alors là, ni l'un ni l'autre ne veut répondre.
Non, il va répondre. Non, il allait répondre.
Mais... Oui, en même temps, il n'y a pas beaucoup de plans larges chez nous. Hein. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'on attrape même des morceaux de décor. Et de temps en temps, il y a quand même des plans larges. Et puis, comme on accompagne nos personnages qui se déplacent, à travers leurs déplacements, on voit aussi des morceaux de paysage. On retient apparemment beaucoup plus les films que nous avons tournés en hiver, où il y a de la boue, et que ceux que nous avons tournés en été. Et c'est vrai que ce sont des paysages, des morceaux de paysage qui sont assez rugueux, âpres. Mm. Voilà, ça nous plaît, je pense. C'est vrai que, voilà, on aime ça et que l'environnement dans lequel nos personnages sont, c'est dans celui-là, il n'y a pas vraiment, ou alors c'est sous le soleil dans deux jours et une nuit, où il n'y a pas, ça n'a pas l'air très confortable, tout ça. C'est vrai, il y a un côté qui n'a pas l'air confortable, mais qui peut être aussi amical dans le paysage, enfin, dans ces morceaux de paysage, ça peut avoir un côté... une empathie du personnage avec là où il est. Mais c'est vrai que ce n'est pas confortable.
Qui a souvent un impact sur les spectateurs.
Oui. Et je me souviens un Vietnamien qui avait dit « Oui, mais pourquoi vous ne filmez pas la beauté de vos paysages pour qu'on connaisse votre pays à l'étranger ?» Mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on enferme, on encage un peu nos personnages. Hein, dans le décor sert à les enfermer plus qu'à se montrer comme une ligne de fuite, une possibilité de s'échapper. Mm. Donc, c'est pour ça que, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses grises, bleues, parfois rouges, comme les briques rouges du Nord, qui sont là. Mm. Mais c'est vrai que c'est pas... À part peut-être les travelling sur les mobilettes, des choses comme ça, où on a un peu plus... Mm. Un peu plus envie de départ et de bouger. Nos personnages sont quand même fort...
Ancré,
oui, mais je veux dire que que le spectateur, il étouffe un peu avec nos personnages qui sont là, qui se débattent pour sortir d'un cadre, enfin, si je puis dire, pour sortir d'un décor, et aller vers, bon, je n'ai pas nécessairement un plan large, mais vers une découverte, une rencontre, autre chose que simplement d'être dans la cage. Et bon, comme nos personnages racontent des histoires de gens pris dans des pièges, si je puis dire, dans des situations qui les enferment, c'est vrai que le décor apparaît comme enfin, c'est ça, comme cage, quoi.
Je rebondis sur vos propos. Oui. C'est pour ça qu'il y a souvent des plans séquences, c'est pour éviter d'abandonner le personnage.
Non, on aime, nous, parce qu'on aime ça, et voilà, vous savez. Nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi on fait des plans séquences. On a trouvé une manière de travailler, de trouver un rythme, une tension avec l'équipe, les acteurs, le plan lui-même. Bon, voilà, et on a trouvé ça bien en travaillant, en cherchant. Voilà, au début de la promesse, ils sont un peu moins longs, puis plus on avance, plus ils deviennent un peu plus longs, nos plans séquences. Mmh. Et on aime bien, mais ça ne veut pas dire que, bon, il ne faut non plus être, il ne faut pas être prisonnier de ça. Donc, il faut essayer de casser ça, même si ce n'est pas facile pour nous. Mais il faut voir ce qui correspond à la matière qu'on filme. Nous, on essaye d'être un peu passif, si vous voulez, d'essayer de sentir ce qu'on fait en répétant. Déjà en écrivant le scénario, mais surtout en répétant. Mmh. En cherchant les décors, nous deux. Avant, on tourne en vidéo, nous-mêmes, les petits mouvements, on ferait ceci, on ferait comme ci, on ferait comme là. Puis avec les acteurs, on commence là, alors, à vraiment le faire et à jouer et faire des mouvements de caméra avec notre caméra vidéo, hein, une petite caméra pour chercher les mouvements. Et là, là, effectivement, on commence à sentir les rythmes. On se dit, tiens, plan séquence, vous pouvez le poursuivre jusque-là, ce serait pas mal. Avec un arrêt là, un silence. C'est parce qu'on est tout le temps dans des idées de rythme. Et à mon avis, on ne pense jamais qu'il y aura de la musique pour rythmer tout ça, finalement, au mixage. Mm-hmm. Qu'on est dans le désir de trouver ça dans le montage à l'intérieur du plan séquence, si vous voulez. Un peu large, un peu plus serré, un peu plus large. Un petit mouvement à droite, on s'arrête, on laisse s'éloigner, on revient sur la gauche, et on se dit, ah oui, là, on trouve un bon rythme. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille. La question du rythme, pour nous, est, je crois, la plus essentielle. Rythme, donc, qu'on trouve, évidemment, avec les arrêts, les mouvements, les largeurs, les échelles de plan, silence, parole, voilà.
Alors, quand j'entends vos propos, je visualise un potier, ou deux potiers plutôt, qui travaillent le tour et qui font monter la matière et qui le rythme.
On peut le dire, Jean-Pierre, n'est-ce pas ? On vous a déjà dit cela.
On vous a déjà dit cela ? Je suis déçu, moi je pensais être la
première. Mais pas comme ça, ça n'a jamais été bien formulé.
Oh, il est bon, Jean-Pierre, à mon égard, parce qu'il a senti quand même que ça, là, mon égo est meurtri, était un petit peu...
Mais un potier à quatre mains, nous
avons dit. Voilà, il y en a un de chaque côté du tour. Hein. Il y en a un qui doit actionner la pédale pour faire tourner et l'autre qui malaxe peut-être là. Voilà. Vous parliez en début d'interview de votre apprentissage de l'écriture avec Gruau.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez appris avec lui ? Parce que l'écriture, c'est une étape fondamentale.
Ce qu'on a appris avec Jean, je ne sais pas, nous, on était un peu naïfs et un peu idiots. Et donc, on pensait que les personnages existaient très vite. Et on disait, non, là, Jean, vous voyez, là, ça vient. Il disait, attendez, les gars, un peu de conflit quand même dans tout ça. Parce que là, vos personnages, vous faites un documentaire. Alors, ne faites pas un film de fiction, mais il faut que la situation soit plus forte. Donc, il nous a appris, je dirais, très brièvement, à extraire les personnages un personnage de fiction, à l'extraire de la réalité, à l'extraire de ses mouvements quotidiens. Dans la mesure où on ne faisait pas un cinéma expérimental... C'est pas ça qu'on cherchait à faire. Donc on essaie de raconter des histoires, on aime bien les histoires, et donc voilà, il nous a appris à créer une fiction, de la fiction, quoi, voilà, c'est aussi simple que ça. Et nous on croyait qu'il fallait peu de choses, et on s'est trompé.
Comme tout démiurge, il faut beaucoup pour créer et faire sortir un personnage.
Ah, c'est pour faire un petit pot, il faut beaucoup de terre.
Ah ben voilà, il est toujours potier, vous voyez. Ça lui a parlé quand même.
Et repasser avec les mains, avec les outils sur le tour.
Et faire en sorte que le pot ne soit pas trop
massif.
Non, massif, oui, c'est vrai. Mais non plus pas trop bien fini.
Il faut des aspérités.
Un peu d'imperfection.
Un peu d'imperfection, il faut laisser un peu
parfait. Mais qu'on ne voit pas qu'elle est volontaire. Voilà. C'est ça le problème.
Oui, il faut que ça soit authentique.
Oui, c'est-à-dire il faut partir, comme on essaye de faire. Bon, voilà, on se dit, voilà, on part dans un nouveau film. Qu'est-ce qu'on va faire ? On ne prétend pas savoir, même si, à force de faire, vous pensez quand même que vous savez un peu mieux qu'avant. Donc, il faut essayer de se débarrasser de cette certitude et d'écouter nous-mêmes nos doutes et ce que nous disent les gens autour de nous pour décider quand même à un moment donné. Mais
pour sentir la matière, pour être réceptif, ouvert à ce qu'on fait, et ne pas prétendre que c'est comme ça et pas autrement avant d'avoir fait quoi que ce soit, un peu comme à la salle de montage. On essaye plein de choses. Et ben, la même chose au tournage et la même chose à l'écriture.
Quand vous dites vous essayez plein de choses, est-ce que vous êtes réceptif peut-être à ce que dit un de vos comédiens sur le tournage ? Donc vous êtes aussi disponible à changer certaines choses selon le ressenti des comédiens ?
Oui, ouais, hein. Oui, mais enfin...
Ouais, quand on voit le dernier, on a quand même beaucoup changé, Rosetta aussi. Hein. On n'a pas les comédiens nécessairement, oui, mais c'est nous-mêmes aussi.
Oui, c'est-à-dire que c'est pas... Enfin, parce qu'il y a beaucoup de mythologie autour de tout ça. C'est-à-dire que, en fait, vous vous apercevez que... Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on... Il me semble. Je dis bien, il me semble, j'en suis pas sûr. Je suis pas non plus mon frère. Que on découvre des choses aussi en les faisant. On a comme une organisation des choses, une organisation de travail, des intuitions, parfois plus que des intuitions, on a répété les choses. Mais en même temps, et sans que ce ne soit une posture, le travail, au jour le jour, nous fait découvrir des choses. Et parfois, les choses que vous découvrez, vous les découvrez aussi grâce aux autres. Ça peut être un comédien, ça peut être le cadreur, ça peut être l'ingénieur du son. Mmh. C'est vrai que le comédienne, la comédienne, normalement, c'est avec... Oui, vous font découvrir des choses, vous dites, mais ça rentre dans le truc, ça fait ci, ça fait là, voilà, dans ce sens-là. Mais on ne dit pas subitement, bon, Luc et moi, nous pensons que le film va être rouge. Et comme il a dit, les gars, vous n'avez pas compris, là, c'est vert. Hein. Ça, non.
Et puis, on retrouve des choses avec eux, malgré eux et malgré nous. Voilà. C'est ça le plus intéressant, parce que...
Ça révèle des facettes du personnage.
Il n'arrive pas à faire quelque chose, l'acteur. Lui, il ne va pas nous dire, hey, votre truc, ça ne va pas. Il va essayer. Normalement,
on voit que ça ne va pas. Hein?
Et nous, on voit que ça ne va pas. On ne va pas lui dire, non, ça va. On va pas lui dire tout de suite, on s'est trompé, ça va, fais autre chose, attends, on va trouver. On le laisse. Et quand il cherche, on le regarde bien, on l'observe, et on se dit, tiens, finalement, cette réplique-là, c'est vrai, il ne faut pas la mettre. Et on va essayer s'il faisait, voilà. Et on change, mais il nous montre qu'on se trompe, qu'on s'est trompé, que voilà. En cherchant, quoi. C'est rare qu'un acteur dise non, là je peux pas dire ça. Ça, on n'a jamais eu ça.
Mais c'est vrai que oui, le tournage n'est pas une application du scénario, donc ça reste un travail vivant. Mm-hmm. Et les partenaires sont aussi des êtres vivants, donc c'est vrai qu'ils participent aussi à cette évolution, à ce changement. Mais il n'y a pas subitement une révélation qui viendrait en disant les gars. Pas, je vous dis qu'on a la science infuse, c'est pas ça, mais à un moment donné,
on en travaillait beaucoup avant.
Nous, on a quand même beaucoup travaillé à un moment donné. Soit on s'est vraiment trompé, ce qui est possible, mais normalement on arrive à faire un travail avec les comédiens, parce que un tournage est quand même basé sur des rapports de confiance. Mm-hmm. Si on a cette confiance en eux et eux en nous, si je puis dire, cette confiance mutuelle, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont le sentiment qu'on est parti pour un voyage. Bon, dont nous sommes un peu, je ne dirais pas les guides, mais enfin un peu les accompagnants.
Les capitaines, hein, tu veux dire.
Non, les accompagnants, je dirais. Et à un moment donné, si on ne sent pas ça, on n'avance plus, chacun. Oui. Juste la débandade, hein, quand même.
Vous parlez de sentiment de famille aussi de comédiens, puisque vous avez travaillé plusieurs fois avec certains comédiens comme Jérémy Régnier ou Fabrizio Roncione.
Oui.
Vous êtes fidèles à vos comédiens.
On les aime bien, oui. Et ils aiment bien travailler avec nous. C'est vrai. Mais cette fois-ci, le prochain film, je pense qu'on va travailler avec très très peu de gens avec qui on a travaillé. Ça va être beaucoup d'inconnus.
Ah. Et vous êtes déjà... On ne va pas tout dévoiler,
non,
mais...
Non, on ne dit rien.
Vous ne dites rien.
Simplement, c'est des inconnus.
Non.
Voilà. Donc, Alfio, l'attaché de presse,
il
a toutes ses chances. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est pour ça qu'il voulait être sur la photo, en fait, tout à l'heure.
Exact.
Et on a parlé de Gro, qui vous a permis de vous initier au métier de scénariste, l'écriture. Vous voulez un petit café ?
Non, ça va.
Est-ce que vous avez des personnes, que ce soit des cinéastes ou même des écrivains, qui, par leur façon de décrire les personnages, vous ont amené aussi à aborder... le métier de la caméra, de filmer.
Oui, on a nos films qu'on aime bien. Nous, on aime Rossellini, Piala, Bresson, Mizoguchi. Voilà, c'est des gens qu'on aime bien regarder. On aime bien voir les films. Alors, les écrivains, ben oui. Ben, je veux dire, moi, je me souviens pour La Promesse, Toni Morrison, par exemple, pour sa manière de commencer les scènes, en plein milieu. Ben, mais c'est difficile de dire ça.
Jean-Pierre aussi, vous êtes
symbiotique. Oui, mais en même temps, on ne s'en rend pas compte. Enfin, vous voyez,
oui, c'est inconscient.
Je ne veux pas non plus jouer au type qui ne sait rien, qui est là comme ça, qui avance, qui est l'aveugle qui avance. Ce n'est pas ça. Mais par exemple, avant, je n'avais jamais pensé que. Restons humbles, hein, je ne dis pas que on est. Mais que, par exemple, quelqu'un m'a fait remarquer une fois, enfin, il faisait remarquer à la radio, il parlait de Dostoïevski, et il disait Dostoïevski. Regardez, dit-il, aucun de ces. Il ne décrit pas ces personnages. Ils sont d'une certaine manière abstraits, mais ils existent dans leur mouvement de colère, quand ils se jettent par terre. Enfin, c'est les corps qui. Ils existent à travers les mouvements de leur corps. Mm-hmm. On peut dire que bon, nous sommes, Luc et moi, des grands lecteurs de Dostoïevski. Quand je dis grand, je veux dire qu'on lit, on lit Dostoïevski. Voilà. Et qu'on peut dire aussi que nos personnages existent vraiment. Ce sont, comme on le disait tout à l'heure, ce sont des corps en mouvement mm-hmm. et que. Beaucoup de choses passent à travers le corps, et c'est d'abord le corps qui rencontre et qui raconte des histoires.
Comme ces personnes, il décrit jamais les paysages non plus, lui. Hein. Enfin, il a la perspective Nevsky, la perspective ceci, mais bon, sous-entendu, tout le monde connaît. Et puis on entre dans les immeubles, dans les chambres, les lieux sont toujours
très. Les murs, les trucs.
Les murs, les portes. Les escaliers, les portes. Voilà, et c'est toujours trop petit, il y a toujours trop de monde là, et puis il y a des trahisons, des gens qui se cachent, qui ont des rapports très ambigus, qui cherchent autre chose que ce qu'ils annoncent qu'ils cherchent. Voilà, c'est des personnages torturés, torturants, si je puis dire. Et voilà, nous on aime ça aussi, et qui se mettent des. Enfin, et qui sont quand même dans une certaine misère humaine, mm-hmm. qui essayent d'en sortir, qui essayent de trouver. Justement, ça, on revient à l'histoire d'être enfermé, quoi, mm-hmm. qui essayent de trouver. Oui, qu'essayer de trouver une certaine vérité de la vie, de l'existence. C'est quoi vivre? Quel sens ça a? Est-ce que tout seul, je peux trouver ça? Ben non, nous, on raconte qu'on rencontre, nos personnages rencontrent quasi toujours un autre qui va à partir. Et c'est à partir de cette relation-là qu'il change, même si c'est la fin du film.
Vous mentionnez Dostoïevski, mais chez lui, même s'il y a peu de descriptions, on ressent le milieu dans lequel on se trouve. On sait.
Oui,
à travers ses personnages. On peut très bien s'imaginer.
On parle, vous voulez dire.
Oui. On n'a pas l'impression. On peut.
Oui, on, évidemment, oui, oui. Quelqu'un qui a étudié ne parle pas comme un autre qui n'a pas étudié, comme le cocher ou comme c'est sûr. Mais en même temps, moi je dirais pas que c'est ce qui me frappe chez Dostoïevski, cette différence de langue. En fonction de l'habitus social, quoi. C'est pas ça qui me frappe. Moi, il me semble qu'il y a quand même une langue qui est quand même la même pour tous les personnes. Enfin, moi, en français, hein. Je n'ai pas lu en russe. Mm-hmm. Jean-Pierre non plus.
Non.
Mais c'est quand même la question centrale, c'est quand même la question morale, la question de l'humiliation, de la trahison, de la honte, de dire la vérité ou de ne pas la dire, de tuer, de ne pas tuer, d'avouer qu'on a tué ou de ne pas l'avouer, de rester dans son orgueil.
La représentation sociale aussi. La représentation dans la société, au sein de la société.
Oui, mais par exemple, si on prend Raskolnikov, là, Crime et Châtiment, bien sûr, ça montre la condition de vie des gens, notamment des étudiants, au 19e siècle, à Saint-Pétersbourg, à Moscou, enfin, en Russie. Mm-hmm. Mais est-ce que c'est ça l'essentiel? Moi, je pense que non. Mm-hmm. Je pense pas que l'histoire de Raskolnikov vient de sa pauvreté, enfin, de sa pauvreté relative. Mm-hmm. Ça vient plus du rapport avec sa sœur, la mère, le père, et l'époque, parce que c'est ça qui est. Bon, on parle de Dostoïevski, si on parle plus de nous, mais c'est ça qui est très fort, c'est que il arrive, et ça, pourquoi, comment, bon, c'est pas, il le sait pas, si je puis dire. Nous, on prend Dostoïevski, je dirais pas au niveau des analyses et des études qui ont été faites a posteriori, mais de lui écrivant, quand on tourne, on essaie de se mettre un peu dans la même place que lui, il ne sait pas qu'il est en train de témoigner d'une époque avec cette histoire de crime gratuit, entre guillemets, que fait Raskolnikov. Que juste pour se prouver qu'il est capable de le faire, donner un sens, faire un geste qui est un geste meurtrier. Donc voilà, et ça c'est extraordinaire d'avoir écrit ce roman-là à ce moment-là, parce que le nihilisme, c'est ça. Et lui, il en connaissait un bout, puisqu'il avait été un peu dans ces gens, il avait fréquenté ces gens. C'est-à-dire que la vie humaine vaut moins que l'idéal politique ou l'idéologie, quoi. Ce qu'on vient de vivre encore maintenant. J'espère, enfin on va voir, mais avec les islamistes, c'est la même chose.
Jean-Pierre, vous voulez réagir ou...
Non, 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 mais simplement que, voilà, c'est bien comme ça, c'est bien. C'est ce qu'il est loin.
Mais à propos de, je rebondis sur ce que disait Luc, témoignage à l'époque, vous, vous témoignez aussi, enfin, d'un univers qui n'est pas forcément familier à tout le monde. Et on vous a mis sur le piédestal à égalité avec Ken Loach ou Mike Lee sur un cinéma social européen qui avait disparu pendant quelques temps. Et puis, je pense à certains Belges, à certains de vos compatriotes, qui étaient plus dans l'imaginaire, l'onirisme.
Oui.
Berliner, Jacob van Dormael, qui était là il n'y a pas longtemps.
Oui, oui.
Vous êtes d'accord quand on vous met dans le cinéma social européen actuel?
Je vais vous dire, moi, on met où on veut, si on me donne à manger, à boire, je suis content.
Ouais. Une cervoise?
Non.
Tu veux dire que tu as de l'argent pour faire tes films, quand tu dis de la manger à boire?
Entre autres, oui, aussi de manger à boire, bien sûr, oui. Oui. On me met où on veut, moi. Mais c'est vrai que nos films essaient un peu de scoltiner l'époque dans laquelle nous vivons.
Mm.
Et puis voilà, c'est vrai qu'on n'est pas du côté du côté de l'imaginaire comme Jacob Pellet, ça c'est sûr, absolument pas. Oui, c'est, oui, bien sûr, non. Puis moi, après, on me dit ce qu'on veut. En gros, Dieu reconnaîtra les siens.
Et Dieu, normalement, est bienveillant avec tout le monde. Vous parliez des islamistes, justement. C'est devenu un problème universel, malheureusement. La Belgique a été touchée, comme la France. Est-ce que, en tant qu'artiste, ça vous affecte? Bon, maintenant, certains le montrent au cinéma aussi. Mais quelle est votre opinion par rapport à ce qui se passe? Est-ce que c'est lié à une méconnaissance? Est-ce que c'est lié... on pense à ces jeunes qui sont partis de Molenbeek, par exemple, qui se sentaient déracinés de part et d'autre. Ils se sentaient ni belges, ni marocains, comme leurs parents.
C'est compliqué, hein, c'est vraiment compliqué. Mais moi, je dirais quand même que... C'est un moment, je dirais, entre deux générations. La deuxième et la troisième sont arrivées les religieux. Et je pense que le problème, vraiment, d'un point de vue très général, c'est que le monde change. La globalisation est là. Et les pays du Moyen-Orient, comme l'Arabie Saoudite, l'ont bien senti. Et c'est à ce moment-là qu'ils envoient tous leurs religieux pour venir... radicaliser les musulmans d'Europe, qui voient comme des gens qui leur échappent complètement. Et c'est une réaction identitaire de leur part, comme il y a eu des réactions identitaires de toutes les religions dans l'histoire. Je n'essaie pas d'accabler une religion par rapport à d'autres. Pour l'instant, c'est eux. Puisque nous, on a motivé pas mal de gens à aller libérer le tombeau du Christ.
Les croisades.
Hein, les croisades catholiques, chrétiennes.
À une époque, l'Inquisition a fait pas mal de ravages.
L'Inquisition, voilà. Donc, il ne s'agit pas
de stigmatiser
d'une religion. Mais je pense qu'il y a une vraie panique, une vraie peur chez eux, avec l'économie qui se globalise, qui se mondialise, de dire qu'est-ce qu'on devient. Et ils savent très bien que leur religion... est une religion, comme on dit, holiste, une religion qui donne le sens à toute la vie individuelle et collective, de tous les gestes de la vie normalement, y compris des gestes intimes jusqu'aux gestes publics. Mmh. Et donc, ça c'est fini. C'est fini. Et donc la réaction est violente. Et les jeunes qui se sont trouvés, parce qu'on ne parle que des jeunes d'Europe, hein, parce qu'il y en a partout, il n'y a pas qu'en Europe. Ils ont foncé là-dedans. Je pense effectivement, comme vous dites, perte de repères par rapport à leurs origines, à leur famille, mais aussi idéal de haine, idéal capté par un désir de se venger. Voilà. Et les religieux qui ont lancé ce mouvement, ben, bon, je ne sais pas, j'espère que. Mais ce n'est pas fini, hein, c'est pas fini pour moi, c'est pas fini. Hein. Loin de là.
Perte de repère, mais il y a aussi peut-être un sentiment d'appartenance à une communauté, à une famille, quand ils se retrouvent endoctrinés. C'est ce qui leur manquait peut-être, puisqu'ils étaient...
Je sais pas, moi, je pense, c'est quand même compliqué de dire... Enfin bon, il faut quand même mesurer, c'est compliqué, c'est un vrai débat, parce que bon...
Oui, il faut faire attention.
Faire attention, parce que... Oui, bien sûr, mais vous pouvez vous retrouver dans une communauté de gens qui veulent la paix, hein, et qui veulent la fraternité, je ne sais pas moi, qui veulent faire...
Je ne passe pas nécessairement par le massacre de masse, quoi.
Voilà, pourquoi est-ce qu'ils veulent tuer? Pourquoi ils se sacrifient? Pourquoi ils veulent être martyrs? Pourquoi ce culte de la mort?
Pourquoi ils jettent les homos depuis les...
Voilà. Et c'est... Il y a un mot... C'est complexe, mais c'est sûr qu'il y a un repli identitaire comme ça sur la religion, comme si sans elle, je meurs. Et donc, il faut qu'il sorte de ça. Parce que je trouve que, bien sûr, il y a les mouvements d'extrême droite, mais la population européenne par rapport aux attentats a bien réagi. On ne peut pas dire que la réaction était raciste et d'exclusion. C'était de se dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Restons calmes. On sait bien qu'il y a plein de gens là qui veulent la paix, qui veulent s'intégrer, qui ne veulent pas du tout en découdre comme leurs enfants. Ou leurs frères et sœurs, parce qu'il n'y a pas non plus. Donc il faut rester calme, mais c'est un phénomène quand même historique. Hein. Ce n'est pas un truc comme ça, avec des quelques... Ça ne s'explique pas par quelques paumés de banlieue, parce qu'ils ont des conditions de vie pas bien. C'est un truc, c'est plus large que l'Europe d'abord. Hein. C'était un État islamique qui comprenait 2-3 000 Européens, mais les 30 000 autres, ce n'étaient pas des Européens. Donc c'est vraiment quelque chose de religieux, c'est un mouvement religieux qui a capté les imaginaires à un moment donné, un peu perdu, comme vous dites, pour certains, d'autres. Pas perdu, mais vraiment calculateur, et qui avait une stratégie et qui se cache encore, parce que tout le monde n'a pas été arrêté. Hein.
Non, et puis moi je trouve que.
Pierre.
Pour essayer de voir les choses positives aussi, je veux dire, c'est qu'à côté de ça, sont apparus dans le radar, comme on est aujourd'hui, toute une série de gens, plus ou moins jeunes, quand même beaucoup de jeunes, femmes et hommes, et beaucoup de femmes. Qu'une parole libre dans des pays où on avait le sentiment que ça n'existait pas. Et ces gens, subitement, ont dit, les gars, nous, on n'a jamais pensé ça, on ne vit pas ça comme ça, on ne fait pas ça. Moi, je suis laïque, je n'ose pas le dire, maintenant je le dis. Enfin, il y a quand même un mouvement, je trouve, si on y est un peu plus attentif, je pense que ce sont eux qui peuvent... Faire basculer et transformer les choses.
Entre autres, par exemple, les blogueurs d'Arabie Saoudite
par qui ont pris des risques. Par exemple, tous ces gens maintenant, et je trouve ça c'est formidable parce qu'il y a une libération de la parole, une intelligence des choses, une intelligence de la situation, pas des prises de position hystériques, et je trouve ça formidable.
Et le gars là, le Palestinien, il est très bien aussi, tu vois, celui qui a fait son bloc là, qui a été exclu. Il a fui à la Palestine parce qu'il dit, mais j'arrive pas à être libre ici, je vois bien dire des choses. Il ne s'agit pas de tel camp. Non, je voudrais bien essayer de comprendre ce qui se passe et de le dire. Hein. Il a un blog très intéressant.
Et puis il y a un écrivain, un jeune journaliste. Des écrivains algériens, Kamal Daoud, Walam Sansal, enfin, tout, des gens qui parlent et qu'on lit, qu'on écoute. Il y a un livre qui a sorti en français qui s'appelle Le Petit Terroriste. Il raconte en quoi. Pourquoi lui, enfant, à un moment donné, il a pensé que c'est ça qu'il fallait faire. Il va à un moment donné, avec ses parents, habiter en Arabie Saoudite. Il quitte la Syrie, il va habiter en Arabie Saoudite. Et là, à un moment donné, l'intoxication, quoi, l'enseignement, le gars, il pense que son rêve, son modèle, c'est Ben Laden. Parce qu'il vit dans un environnement, pas agressif, comme ça, dans la vie quotidienne, mais qui pense que Ben Laden, ça, c'est quelque chose.
Mais il ose être radical. Le désir de radicalité.
Oui, mais donc, il y a des gens qui s'en emparent, qui en font des romans, qui en font des fictions, et qui racontent comment ils s'arrachent à ça, et tout ça. Ça, c'est bien, je trouve.
Ça peut être salutaire aussi pour les autres.
Je pense, oui. Non,
c'est ce qu'on peut espérer. Hein.
Il me semble.
Inch'Allah.
Oui. Non, parce qu'il y a toute une série de gens qui sont là, et qui voient, et qui... Non. Et les femmes, hein.
Moi, je pense que c'est les femmes qui vont... Parce que quand une femme dit non, il faut qu'elle le dise, là, c'est dur, hein, c'est difficile.
Là, elle a été aussi, pendant des siècles, éduquée comme quoi.
Elle doit dire oui, elle doit rien dire en fait.
Donc, elle doit se taire surtout.
Ça va se soumettre. Mais quand une femme dit non, elle dit non à la sexualité, je dirais, appelons-la mâle, patriarcale, elle dit non. Elle dit non à l'injustice sociale, même chez nous. Chez vous, en Suisse aussi, je crois, les salaires féminins...
30%
moins important. Et elle dit non, je dirais, politiquement aussi, parce que les femmes en sont sous-représentées, n'ont pas le même droit. Bien sûr, elles votent depuis un peu plus d'un demi-siècle.
Sauf en Suisse.
Voilà. Nous, c'est 47.
Nous, c'est beaucoup plus tard.
Notre mère a pu ouvrir un compte en banque à son nom en 1973.
Et ben, en Suisse, 81.
Donc, les femmes, tout d'un coup, ouvrent un espace de liberté de... pour les hommes aussi, évidemment, pas que pour elles. Donc, ça change tout quand une femme dit non. Et ça, c'est bien. Et je voulais dire aussi religieux. C'est ce que je dis politique. Et religieux. Parce que la religion, nos trois religions monothéistes, pour parler des principales religions d'Europe, ce sont des religions qui donnent une place d'infériorité à la femme. Elle est toujours la seconde. Mm-hmm. Notre Dieu est un homme, hein, comme vous le savez. Donc, ça aussi, quand une femme dit non, ben, elle dit, attends, normalement, t'es là pour faire des enfants.
Procréatrice.
T'es là pour t'occuper de les éduquer. Nous, on va à la guerre. Nous, on va au travail. Nous, non. Bon, ça a évolué à cause de la technologie, tout ça. Hein. Mais je veux dire, quand une femme dit non, c'est une femme dit non, je ne veux pas d'enfants. Ou bien si, mais pas maintenant, demain, après-demain. Je veux dire, tout d'un coup, elle décide. Et donc...
Ça change les donnes.
À fond. Mais c'est ça qui change tout, je crois. Mmh. C'est la grande émancipation, le grand mouvement d'émancipation, moitié 20e et 21e.
Oui, parce qu'il y a eu les féministes des années 70, qui, on pensait qu'elle avait déjà ce mouvement avait pu obtenir beaucoup de droits, qu'elles avaient pu acquérir une avancée considérable. Mais en fait, après, il y a eu une sorte de recul, non, quand même.
De recul. Vous voulez dire...
Par rapport déjà, vous parlez de parité salariale, vous parlez de...
On ne sait pas, recul. Avant, c'était carrément...
Oui,
quasi gratuitement.
Oui.
Les femmes d'ouvrage, on les payait en les endormir, en les logeant, quoi. Mm. Les bonnes.
Ouais, dans les usines, les femmes étaient moins payées.
Et les femmes étaient moins payées. C'est en soi la première grande grève des femmes.
En Belgique.
Il y en a une en Angleterre.
En Angleterre.
Il y a un film là-dessus.
Ben, oui, les suffragettes. Ou avant les suffragettes.
Non, je parle des années 60.
D'accord.
Du 20e siècle. La grève des femmes... Eh bien, en même temps, en Belgique, dans l'usine d'armement, paradoxal, mais elle faisait les mitraillettes. Bon. Mm. Mais il y a la grève en 67, hein, grève de Herstal, des femmes. C'est un mouvement de femmes. Pour
travailler égal, salaire égal.
Améliorer leur salaire.
Elles ont obtenu gain de cause ?
En partie. Mais évidemment, non, pas salaire égal. Vous savez, ou pas. Enfin, si, maintenant, en Suède, je crois.
Finlande aussi.
Finlande.
Il y a quelques pays.
Voilà.
Il y a quelques
pays. C'est le Nord, hein, toujours un petit peu avant-gardiste.
Ouais. Oui.
Mais on y arrivera. Mais ça prend du temps. Mais c'est ça le grand bouleversement. Et ce sera réel, si je puis dire, quand ce sera transmis à la génération qui suit et celle qui suit. C'est-à-dire que les enfants auront vu leur mère et leur père ou les amis, les petits, ils auront vu ce. Et ils vont l'intégrer, et puis je ne sais pas ce qu'ils vont faire, peut-être ils vont se révolter contre ça et faire encore autre chose. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui s'inscrit dans les générations. Un peu comme les droits de l'homme se sont inscrits dans les générations aussi. C'est une manière d'inscrire les droits de l'homme, de les incarner dans la vie réelle, dans la vie. Le fait de dire une femme et un homme, c'est la même chose, ça se vaut. Il y a égalité des sexes, égalité... des couleurs, on peut être malade mental ou pas, on est quand même un être humain égal à un autre être humain, on n'a pas à être...
Comme la liberté d'orientation sexuelle.
Comme la liberté d'orientation sexuelle.
Et ça devrait déjà appartenir à l'éducation dès le plus jeune âge, c'est-à-dire à la maison, avant même l'école.
Mais ça, je pense que c'est une question de génération. Mm-hmm. Moi, c'est mon point de vue, je suis peut-être un peu conservateur, mais je pense qu'il ne faut pas se forcer non plus. Mm-hmm. Si on ne le sent pas... L'enfant, il sent que vous ne le sentez pas. Si c'est pour dire, attention, hein, ici, t'es homo, dis-le. Hein. Écoute, papa, je ne sais pas moi ce que je suis. il faut laisser faire les choses aussi. Et puis voilà, mais l'enfant, il sent. Mais parfois, c'est vrai qu'on vit des périodes, on aime bien affirmer hein, pour l'instant. Mais je crois qu'il faut, ça prendra un peu de temps quand même. Il faut...
Il y a une autre problématique en Europe.
C'est un film italien, cette comédie. Où, moi, je ne l'ai pas vu, mais on en parlait ce matin. C'est comment le film ? Comédie italienne, mais si vous voulez, c'est un père et une femme de gauche et tout qui sont un peu embourgeoisés et tout. Ils ont deux enfants. Il y en a un, ils disent il n'a pas d'amis, il doit être homosexuel. C'est rien, c'est bien. Bon, là, nous on a dépassé ses préjugés. Alors, un jour, le gamin demande pour leur parler d'une chose très sérieuse sur sa vie. sur l'orientation qu'il va donner à sa vie. Donc ils se disent, bon, il va nous le dire. Et l'enfant, il dit, voilà, j'ai décidé d'être prêtre. Et eux, ils sont laïcs. Et alors les gens, la famille de gauche, laïque, va rencontrer le prêtre qui a influencé ce garçon, qui est un ancien voyou, devenu un peu sauvé par la religion, et qui est très tolérant, très ouvert, et ils vont retrouver une espèce de mission sociale commune. C'est une comédie, hein.
Mais j'ai bien compris, les Italiens, effectivement, comme dit Jean-Pierre, ont beaucoup d'humour. Il y a une autre problématique qui ravive beaucoup d'anciennes peurs en Europe, c'est les migrants, les émigrés, les réfugiés. Est-ce qu'en Belgique, c'est aussi vivace, par exemple, que ce qu'on...
Vous allez nous interroger sur tout...
On peut vous envoyer notre texte.
C'est une thématique sociale, oui, qui est proche de vos intérêts, oui, de ce que vous faites dans vos films.
La promesse... La fille inconnue.
Mmh. Je vais vous envoyer le texte sur
le silence de Lorna. Tout ça raconte.
La fille inconnue. Comment...
Ben oui, j'ai dit.
Ah, pardon, excuse-moi, je dormais.
La fille inconnue, réalisée par Luc et Jean-Pierre.
Pour moi, ça
c'est,
sens.
Pour c'est le repas, oui, du Tiffany qui était drôlement bon. Non, là, vous êtes en pleine.
Non, non, je me vais.
Et c'est vrai que nos films, parce que c'est sans doute un des grands bouleversements de nos sociétés occidentales aujourd'hui. C'est l'arrivée de tous ces gens qui viennent de parties déshéritées du monde et qui viennent pour des raisons politiques et parfois non, oui, on peut dire aussi pour des raisons économiques, et puis des raisons économiques sont politiques, on peut dire ça aussi, pour avoir une meilleure vie. Alors, et là ça se complique parce qu'on ne peut pas empêcher des gens de vouloir avoir une meilleure vie, ok, mais comment on fait avec aussi tous les gens qui vivent là où les autres arrivent. Il faut trouver une manière que tout ça se passe le mieux possible. Et il y a les discours, c'est facile de parler comme je parle aujourd'hui, parce que je n'ai aucun engagement que de responsabilité, si c'est une responsabilité morale et tout ça, et de prise de parole généreuse. Et c'est très bien comme ça. Mais à un moment donné, comment ça se passe? Comment on organise ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Mais une fois qu'on a dit ça, on peut remarquer que nos sociétés sont très frileuses. Et que... Mais je pense que c'est aussi très frileux parce qu'on vit aussi dans un moment où nos économies, même si nous sommes une partie riche du monde, nos économies sont un peu vacillantes, enfin, traversent une période de mutation énorme, que tout le monde a peur. Et que, comme toujours, ce sont ceux qui ont le plus peur, qui sont le plus réticents à accepter l'autre, parce qu'ils se disent, putain, merde, c'est moi qui vais morfler. Et alors, bon, alors une fois qu'on a fait des discours généreux, le plus compliqué, c'est de mettre les bras dans le cambouis, si je puis dire, et de voir comment, et de faire en sorte que tout ça puisse fonctionner. Alors, voilà. Nous, on a pris une position publique, là, en Belgique, à travers une carte blanche, que Luc vous envoie, donc vous verrez, par rapport à des immigrés ou des migrants, je ne sais plus comment on dit aujourd'hui, soudanais, qui ont été renvoyés chez eux. Ça a soulevé pas mal d'indignation dans notre pays. Et en disant comment on ne renvoie pas des gens dans un pays où ils risquent, oui, et où ils risquent d'être maltraités parce qu'ils rentrent, parce que c'est une dictature vraiment violente. Et ce type, le boss, là, il a 3 procès sur le dos, crime contre l'humanité, génocide, crime de guerre. Enfin bon. Et notre préposé, si je puis dire, à l'immigration, le secrétaire d'État, est à un côté fier à bras, et il caresse la bête dans le sens du poil, donc il en a fait, il a un peu surfé là-dessus, en disant, moi je fais ce que je dois faire, le gouvernement a dit que, et il s'est mis en avant à travers tout ça, et nous, on a appris qu'il y avait eu, que ceux qui étaient retournés avaient eu des problèmes là-bas, on parlait même de torture, et nous avons, Luc et moi, rédigé une carte blanche qui est parue dans le journal Le Soir, qui était une occasion de redéployer un peu le débat et voilà, de relancer les choses. Et, voilà, la société.
Je la cherche.
Voilà. Et c'est vrai que c'est pas facile, hein. C'est pas facile.
Alors, Jean-Pierre et Luc va m'envoyer ce texte. Je vois que l'attaché de presse me fait signe, donc je dois vous quitter. Non, juste la dernière question, puisque vous êtes présent pour cette filmographie présentée au cinéma des Grutli. Votre relation avec la Suisse romande, bien sûr, francophone, qui dit 70 et 90 comme vous.
Oui. Mais je vous ai dit, notre premier contact avec la Suisse à travers le documentaire, donc on ne va pas revenir là-dessus. Et je pense que si je me souviens de, du premier film que nous avons fait qui était distribué au niveau international, c'est La Promesse. Et je pense qu'un de nos premiers acheteurs, c'est Xenix.
Deuxième.
Cyril.
Premier japonais.
Cyril, voilà. Surtout. Ouais.
Voilà. Et donc un rapport privilégié. Puis chaque fois, on est venu, entre autres, puisqu'on parle de Genève, on est venu à Genève à la Scala, à la Scala, avec le couple
Monsieur
Madame. Voilà.
Micheline.
Et voilà. Et ça nous, on est toujours revenu avec beaucoup de plaisir rencontrer le public qui veut bien nous rencontrer.
Qui va vous rencontrer aujourd'hui.
Voilà. Et puis les exploitants de salles ici, c'est, voilà, c'est des beaux souvenirs.
Luc, vous approuvez toujours symbiotique avec notre
tout à fait. Je ne sais plus quelle date il est paru, quand il est paru le texte.
Alors je vous remercie tous les deux, Luc et Jean-Pierre, et ça a été un plaisir de vous retrouver.
Je vous envoie le mail tout de suite.
Merci beaucoup.
Il est paru quand